Dans le monde, il existe un grand nombre de religions différentes qui vénèrent toutes sortes de dieux différents. Le christianisme, pour sa part, compte un grand nombre de branches diverses, adorant chacune un dieu qui n'est pas le même, puisque leurs enseignements sont souvent divergents, voire même opposés. Le même phénomène existait à l'époque de l'apôtre Paul, quelque temps seulement après que le Christ fut retourné au ciel, après avoir fondé son Église. Un jour qu'il se trouvait dans la ville d'Athènes, les philosophes demandèrent à Paul de leur expliquer ce qu'il annonçait, une doctrine qui leur semblait nouvelle et plutôt étrange. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » La ville d'Athènes était remplie de statues et d'autels dédiés à différents dieux. Il y avait même un autel portant l'inscription « À un dieu inconnu ». Paul s'est servi de cette situation pour révéler aux Athéniens qui est le seul vrai Dieu, celui qu'ils ne connaissaient pas, celui que l'ensemble de l'humanité n'a jamais vraiment connu. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Qu'en est-il en ce qui vous concerne? Connaissez-vous ce Dieu que Paul a fait connaître, le véritable Dieu de la Bible? Restez à l'écoute. Salut à vous! Dans l'Ancien Monde, l'existence de nombreux dieux était communément acceptée. Des dieux qui, croyait-on, gouvernaient différentes parties des cieux. D'autres dieux étaient régionaux et ne possédaient de pouvoir que sur un pays en particulier. Quel contraste avec le récit biblique proclamant que le Dieu d'Israël est le seul Dieu et qu'il est le Créateur, celui qui règne sur la terre et dans les cieux. Nous avons tendance à prendre pour acquis ce vaste univers physique très complexe où nous vivons. Il nous semble stable et permanent, comme s'il avait toujours existé. Toutefois, si nous examinons les choses de plus près, nous réalisons qu'il n'a pas toujours été là. La Bible déclare que l'univers a eu un commencement, et de façon générale, la science le reconnaît. De nombreux scientifiques croient que la matière n'a pas toujours existé, et que notre univers s'est formé lors d'un Big Bang il y a environ 14 milliards d'années. L'auteur et journaliste scientifique canadien Bob McDonald l'explique ainsi. Selon la théorie du Big Bang, l'univers serait né d'une inimaginable soupe d'énergie dont les pressions auraient été tellement élevées qu'aucune masse n'aurait pu exister. Même les quarks, les plus petites particules connues, auraient été réduits en énergie pure. Une soupe d'une telle intensité aurait dû, bien sûr, rester la même partout. Ce bouillon s'étendant dans toutes les directions aurait dû demeurer uniforme, de sorte que l'univers présent devrait n'être encore rien d'autre que pure énergie, tout simplement plus étendue et plus diffuse, mais franchement assez ennuyeuse. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. À un certain moment, l'énergie s'est transformée en matière, c'est-à-dire en quarks, en protons, en électrons, en atomes, en molécules, en particules, en planètes et finalement en êtres humains qui, eux, essaient de comprendre tout cela. Nous existons, nous sommes là. D'une façon ou d'une autre, l'énergie s'est transformée en matière et la matière s'est transformée en ce que nous sommes. Mais d'où venait cette énergie? Quelle était son origine? La science n'a pas de réponse. La science ne sait pas non plus comment ni pourquoi cette énergie, apparemment présente depuis toujours, en serait venue à produire le Big Bang et à donner lieu à l'apparition de la matière. Lorsque nous nous examinons, nous constatons une merveille d'ingénierie. Le corps et l'esprit humain sont la preuve d'une conception intelligente, fonctionnelle et planifiée. C'est également vrai pour les autres créatures vivantes. Les oiseaux, les insectes, les reptiles, les poissons ou les mammifères ne sont que beauté, fonctionnalité et le fruit évident d'une planification minutieuse. De plus, tout l'écosystème de notre planète fonctionne harmonieusement pour permettre l'existence de la vie sous toutes ses formes. Est-ce vraiment si difficile de voir l'intervention d'une intelligence supérieure à l'origine de toutes ces choses? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul affirma aux Athéniens qu'il y a un Dieu à l'origine de ce vaste univers. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les scientifiques sont incapables de dupliquer la moindre forme de vie, même la plus simple? Pensez-y. On nous dit que des substances chimiques inertes se seraient regroupées, par accident, dans une soupe primordiale et auraient commencé à s'unir de manière à produire la vie. Mais est-ce aussi simple? Si oui, pourquoi les scientifiques sont-ils incapables de reproduire ce processus? Après tout, ils connaissent ces substances chimiques. Supposons qu'ils arrivent à rassembler les bonnes substances chimiques et à les joindre de la bonne manière, comme s'ils réussissaient un puzzle très complexe. Supposons aussi qu'ils arrivent à les maintenir ensemble pendant quelques instants. Afin de créer une cellule vivante, ils devraient alors emballer cet incroyable puzzle dans une sorte d'enveloppe, une membrane, pour maintenir l'assemblage. Or, rien n'est simple à propos de la membrane qui entoure une cellule. Et l'idée que cela ait pu se produire par hasard est presque une insulte à notre propre intelligence. Pensez-y, pour que cette cellule survive, son ADN doit contenir les instructions détaillées, lui permettant de construire sa paroi cellulaire de protection. Mais qu'est-ce qui serait apparu en premier? La paroi cellulaire qui maintient l'ADN et toutes les structures de la cellule ensemble, ou l'ADN qui contient les instructions pour construire la paroi cellulaire? Même si tous les éléments mentionnés s'assemblaient, par hasard, cela produirait-il la vie? La réponse est non. Cette matière n'a en elle aucune vie. Vous auriez beau avoir tous les éléments d'un organisme, dans la bonne configuration, vous n'obtiendriez pas la vie si cette vie n'était pas donnée. Il ne peut pas y avoir d'effet sans qu'il y ait une cause qui le produise. Pour essayer de trouver une explication à cette question dont ils n'ont pas la réponse, les scientifiques suggèrent parfois qu'une étincelle ou un éclair aurait peut-être pu, soudainement, faire entrer la vie dans ce puzzle. Voilà encore une supposition qui ne repose sur aucun fondement et qui est pur produit de l'imagination. Jusqu'à présent, malgré toute son intelligence, l'homme n'a jamais réussi à assembler ce puzzle à partir de zéro et encore moins à lui insuffler la vie. Il existe néanmoins une explication simple, logique et claire sur la nature et la source de l'énergie à l'origine de tout ce qui existe et de la vie elle-même.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pouvez également utiliser notre boîte vocale au 1-800-857-2064. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse Le Monde de Demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de Demain et vous abonner à notre cours de Bible.
Paul et la Bible affirment qu'il existe une explication. C'est une explication toute simple. Une intelligence suprême a créé l'univers et donné la vie. Il s'agit justement de ce Dieu que les Athéniens ne connaissaient pas, ce Dieu encore inconnu pour l'instant aux yeux de tant de gens. Selon sa promesse, cet être tout-puissant va bientôt intervenir directement dans les affaires du monde pour mettre fin à toutes les misères humaines, aux souffrances et aux guerres. Dieu avait averti les premiers humains qu'ils souffriraient beaucoup s'ils décidaient de ne pas vivre selon ses lois et de déterminer eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a respecté leur liberté de choix et leur a permis, pour un temps, d'expérimenter les choses à leur façon. Ce faisant, ils ont perdu la connaissance du vrai Dieu, la connaissance de son grand plan pour eux, et ils se sont créés de petits dieux à l'image humaine. Même si, selon leurs souhaits, Dieu a laissé les humains à eux-mêmes, il a permis que la terre continue de produire de la nourriture pour les alimenter. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Les Écritures nous montrent clairement que ce Créateur de vie a un plan pour toute l'humanité. Amener les êtres humains faits de poussière à son niveau d'existence, à devenir des êtres spirituels de même nature que lui. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Comme nous le verrons plus loin de façon particulière, la vie humaine a un but bien précis, établi par le Dieu qui a créé toute chose. La science a bien sûr un rôle important à jouer, mais étant limitée au monde physique, elle est tout à fait incapable de répondre aux questions concernant le but de l'existence humaine. La science essaie simplement d'expliquer comment les choses auraient pu se produire. Et malheureusement, certains scientifiques ont imposé à leurs disciples une règle rigide et expéditive connue sous le nom de naturalisme. En ce qui a trait à la méthode scientifique, cela implique que tout doit avoir une explication naturelle et que rien n'existe en dehors de la nature. Le surnaturel est par conséquent totalement exclu. En d'autres termes, selon cette approche, il est hors de question de considérer Dieu. Ainsi, le point de vue purement matérialiste, aussi appelé naturalisme, consiste à dire qu'à une certaine époque, seule l'énergie existait. Personne ne sait d'où elle venait, mais cette énergie aurait alors commencé à se concentrer en un endroit donné. Personne ne sait comment ni pourquoi. Ou elle aurait explosé dans le Big Bang pour se transformer en matière. Cette matière se serait dispersée en formant les étoiles, les planètes, ainsi que les autres corps et systèmes célestes. Sur l'une de ces planètes, les substances chimiques inertes se seraient assemblées pour former un puzzle. Il n'y avait pas encore de vie, mais avant que le puzzle ne se détériore, la vie serait entrée en lui grâce à une étincelle minuscule, car notre future créature monocellulaire était microscopique. Puis, ce minuscule et unique organisme monocellulaire aurait su qu'il avait besoin de nourriture et il aurait su où la trouver, à partir de matière inerte. Il aurait su comment l'ingérer et il aurait survécu suffisamment longtemps pour se reproduire, et ce, grâce au hasard. De plus, lorsque le puzzle se serait assemblé, il aurait déjà possédé tous les codes et structures ADN nécessaires. Des millions d'années plus tard, cela aurait produit toutes les formes de vie que nous connaissons aujourd'hui. Un tel scénario est tout à fait irréaliste et impossible. À sa face même, un tel raisonnement est cousu de fil blanc et ne tient pas la route. Il faut une foi aveugle pour y croire. La réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus encourageante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dès le début de la Bible, Dieu déclare que c'est lui qui a tout créé et qu'il a donné la vie aux êtres humains dans un but précis, qu'ils naissent un jour dans sa famille en tant qu'êtres spirituels éternels, de même nature que lui, leur père. Le roi David a beaucoup réfléchi à ce sujet. Il a écrit ceci. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Voilà quelles étaient les intentions de Dieu pour l'homme dès le commencement. L'homme est-il appelé à diriger beaucoup plus dans le futur que ce qu'il peut administrer présentement? C'est bel et bien le cas. En ce sens, l'apôtre Paul pousse plus loin la réflexion du roi David. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Pour le moment, Dieu a confié aux êtres humains de régner uniquement sur la planète Terre et son environnement immédiat. Mais comme nous venons de le lire, le Créateur a pour but ultime de soumettre toute chose à ses héritiers, à ceux qui vont se tourner vers lui pour s'appliquer à vivre selon ses lois et à développer son caractère. De nos jours, la planète Terre est presque entièrement soumise à l'humanité. Les humains ont domestiqué les animaux sauvages en les utilisant comme bêtes de somme, animaux de compagnie ou nourriture. Toutefois, il est évident que le règne humain est très limité et qu'il ne s'étend pas beaucoup au-delà des aspects de base de la vie physique sur notre planète. De plus, nous savons que nous sommes en fin de compte des êtres physiques limités dans le temps, destinés à mourir. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il placés dans une position unique pour régner? Pourquoi dit-il que toutes choses ne nous sont pas encore soumises? Qu'est-ce qui nous attend au-delà de la présente vie physique très limitée? La Bible répond à ces questions.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pouvez également utiliser notre boîte vocale au 1-800-857-2064 ou aussi nous écrire à l'adresse Le Monde de Demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran.
La destinée des êtres humains est absolument fascinante. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Les humains ont mal utilisé la liberté de choix que Dieu leur a donnée. Ils se sont détournés de lui depuis le tout début, et ils se sont inventés des dieux et des déesses selon leur imagination à leur propre image. Les musées sont d'ailleurs remplis de figurines et de statues les représentant. Certaines déesses ont des poitrines multiples. Certains dieux sont gras et souriants. D'autres ont des ailes. D'autres encore sont à moitié humains et à moitié animaux. Mais la plupart de ces dieux et déesses ont des traits de la race de ceux qui les ont fabriqués. C'est contraire au plan de Dieu qui a déclaré « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est pourquoi Dieu parle de nous dans la Bible comme étant ses enfants potentiels, ses fils et ses filles, ses héritiers, co-héritiers avec le Christ. Commençons-nous à voir pourquoi Dieu parle des humains de cette façon? Il a planifié de nous former à son image pour que nous devenions ses enfants à part entière. Ce processus implique d'apprendre les voies de notre Père et de développer son caractère, afin que nous puissions vivre en harmonie avec lui pour l'éternité. Paul déclare à ce sujet, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Quelle est cette gloire qui sera révélée pour nous? Qu'est-ce qui nous enthousiasme et nous pousse à vouloir connaître davantage notre Créateur et l'adorer? C'est l'avenir qu'il nous réserve. Nous ferons partie de sa famille. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la filiation, la rédemption de notre corps. Cette rédemption de notre corps, c'est la transformation totale. C'est la résurrection à la vie éternelle que Paul a expliqué aux Athéniens. L'entrée dans la famille spirituelle du seul vrai Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les êtres humains ont un avenir qui dépasse de loin tout ce que nous pourrions imaginer. Si nous sommes le produit du hasard, s'il n'y a rien au-delà de la vie présente, s'il n'y a pas de résurrection après la mort, il est logique de vivre au jour le jour sans se soucier de l'avenir. L'apôtre Paul dit, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais Dieu est réel. Son plan est bien réel et il est en voie de réalisation. C'est pourquoi nous devons être encouragés par ce qui nous attend dans notre vie future, au sein de la famille éternelle. Les êtres humains n'ont pas été créés comme de simples animaux pour vivre et mourir sans espoir. Nous sommes différents. Dieu a doté les animaux d'un instinct, mais il a doté l'être humain d'un élément spirituel, un esprit, qui lui permet de réfléchir, d'apprécier, d'analyser, de faire des choix. La foi, l'espoir, la liberté de choix et la capacité de planifier l'avenir nous rendent tout à fait différents. En parlant de la famille que Dieu le Père est en train de développer, Paul dit que le Christ est le premier-né de cette famille qui va bientôt s'agrandir, le premier-né de beaucoup de frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà un autre rappel de l'héritage qui attend tous ceux qui se tournent vers le vrai Dieu pour apprendre à le connaître et à faire sa volonté. Voilà le plan de ce Dieu inconnu que Paul a annoncé aux philosophes grecs d'Athènes. Ce Dieu qui, de nos jours, est encore inconnu d'une grande partie de l'humanité. Ce Dieu créateur, que nous pouvons appeler Père, veut que nous développions avec lui dès maintenant une relation personnelle qui pourra aller bien au-delà de notre courte existence physique présente. Dieu est un être éternel. Il nous appelle à devenir comme lui, à son image. Il est donc évident qu'il veuille nous donner la vie éternelle, l'immortalité, en tant que ses enfants, si nous abandonnons nos voies mauvaises pour vivre de plus en plus selon ses lois et pour faire sa volonté. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Nous avons donc un rôle à jouer, une part à faire, éliminer de nos vies ce qui est contraire aux lois divines et, avec son aide, vivre selon ses commandements. Nous savons avec certitude que cette vie est très courte. Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons que l'âge mûr et la vieillesse sont des étapes tellement éloignées qu'elles nous semblent même irréelles. Mais plus nous avançons dans le temps, plus nous prenons conscience de la brièveté de l'existence humaine. Le psaume 90 déclare « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Puis, il ajoute ce sage conseil au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » La parole de Dieu explique clairement que la vie humaine a un but enthousiasmant. Il est nettement démontré et expliqué dans les pages de la Bible. Vérifiez vous-même ces vérités. Il est possible que le Dieu de la Bible ne soit pas pour vous un Dieu inconnu. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence et révèle votre étonnante destinée. Vous pouvez également utiliser notre boîte vocale au 1-800-857-2064 et aussi nous écrire à l'adresse Le Monde de Demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs.
Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.